RMC, l'After Live.
It's Kieran Trippier. It is delicious! Glorious! Glorious England goal! Picture perfect! There is not a better strike than that!
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC pour la dernière soirée autour de cet Euro 2024 que l'on suit depuis le début, tous les matchs en intégralité, et ce soir le dénouement final, on va connaître le vainqueur de l'Euro. Espagne-Angleterre, le coup d'envoi à 21h avec Jeannot Rességuet qui est au Stade Olympique de Berlin. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
On est avec Manu Petit de la Dream Team. Salut Manu.
Bonsoir tout le monde, good evening, buenas tardes.
Oh, il se met à toutes les langues, magnifique. Bah, faut dire qu'il a joué en Espagne et en Angleterre.
En Angleterre,
quel souvenir l'Espagne.
Ah, t'as dit, Manu. Je peux le dire en catalan aussi. Hein.
Ah, vas-y.
Bonne nuit.
Je rigole. On va se régaler. La dernière soirée va être magnifique. Fred Hermel est avec nous, notre spécialiste du foot espagnol. Salut Fred.
Hola chicos. On dit bona tarde.
Bona tarde
en catalan.
En catalan, ouais.
On a bien senti que t'avais eu du mal à te mettre au catalan à l'époque.
Non, mais t'as pas. Mais je le savais, mais c'est juste, j'avais pas envie de le dire.
Bah, bien sûr.
Il est rancunier. Hein.
Non, j'oublie pas, c'est ce qu'on est, nous les Normands. On est
ouais,
pas
le Normand est rancunier.
On se souvient parfaitement de tout, tu vois, t'inquiète.
Et Julien Laurence est avec nous, notre spécialiste du foot anglais. Salut Julien.
Salut à tous.
Oui, il est en direct de Berlin, lui aussi, ça s'entend. Ouais. Ah. On va donc tout vous dire sur cette finale. Bon, on vous attend au 32-16. Est-ce que l'Espagne peut être gagnée par l'excès de confiance, puisqu'on n'arrête pas de dire du bien de cette équipe? Vous pouvez nous appeler au 32-16, on fera ce débat tout à l'heure. Est-ce que vous croyez au grand soir pour les Anglais? Là aussi, on vous donnera la parole et on fera une parenthèse hors Euro, puisque enfin, le feuilleton des droits télé en Ligue 1 a pris fin. Ce sera donc le duo DAZN beIN Sport qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine. On fera le point avec Nicolas Pelletier tout à l'heure. Mais on commence, comme chaque grand match sur RMC, par les compos d'équipe. Jeannot, donne-nous les 22 joueurs.
Alors, pour l'Espagne, les choix de Luis de la Fuente, il n'y a pas vraiment de surprise, puisque Unai Simon sera dans les buts. Laporte, avec le retour de Lenormand qui était suspendu contre la France, tout comme le retour de Carvajal sur le côté droit, suspendu lui aussi. Cucurella sera sur le côté gauche de la défense, défense à 4. Milieu de terrain avec Fabian Ruiz et Rodri, ainsi que Dani Olmo pour la pointe haute. Derrière, Morata, l'attaquant axial et capitaine de l'équipe espagnole. Et sur les côtés, les deux jeunes, Williams à gauche et Yamal qui a fêté hier ses 17 ans. Voilà pour la composition espagnole. Pour l'Angleterre, il y avait une interrogation concernant Trippier, douleur musculaire. Il ne débutera pas le match, il sera remplacé par Luke Shaw, le Lucky Luke de la finale de 2021, lui qui avait marqué après 117 secondes. Pickford dans les buts, le gardien d'Everton, les défenses à 3, Walker, Stones et Gueye, le défenseur de Crystal Palace. Dans les couloirs pour les Pistons, à droite Saka, à gauche Shaw, le milieu de terrain avec Menou et Rice. Après, il y aura Foden légèrement avancé côté droit, Bellingham légèrement avancé côté gauche et Harry Kane, le capitaine, lui sera l'attaquant axial. Voilà pour les choix de Gareth Southgate. Et François Le Texier sera donc l'arbitre de cette finale. 1988, Pays-Bas, URSS, le seul et l'unique à avoir arbitré une finale d'un championnat d'Europe s'appelait Michel Vautreau. On le salue, on sait qu'il écoute de temps en temps RMC et qu'il a beaucoup de fierté ce soir de voir François Le Texier devenir le plus jeune arbitre d'une finale d'un championnat d'Europe à 35 ans.
On le suivra avec attention, le français de la soirée, François Le Texier. Manu, avant que tu nous donnes ton avis sur les forces en présence, comment tu vois cette finale, sur les compos, donc côté espagnol, Fred, aucune surprise?
Aucune surprise.
C'est l'équipe du début.
Enfin, Edric qui s'est blessé, mais voilà, c'est l'équipe qu'on attendait en fait. Il y avait simplement un tout petit doute, est-ce que pour son expérience en finale, 9 finales disputées par Nacho à la place de le Normand, mais c'est vrai qu'au niveau des automatismes, le Normand, Laporte ont plus l'habitude de jouer ensemble, donc c'est plutôt logique.
Et il y a les deux devant, hein. Enfin les deux sur les côtés, Yamal et Nico Williams, bien sûr, on pourrait y revenir dans cet avant-match. Et côté anglais, alors Julien, qu'est-ce que tu penses de cette compo?
La petite incertitude, comme Jeannot l'a dit, c'était sur Trippier, couloir gauche. Ce sera donc Shaw qui va débuter. Pour moi, c'est un énorme pari que Luke Shaw débute. S'il n'a pas débuté un match depuis février, il n'était pas à 100%. Il était blessé quand il a été appelé par Southgate. Il a joué, il est entré à la pause sur les deux derniers matchs. Il a joué un petit peu le match encore précédent. Mais pour moi, face à Lamine Yamal, dans la forme dans laquelle il est, contre Carvajal aussi, même s'il aura du soutien avec, avec Gueye, avec Rice, je trouve que c'est, voilà, c'est un match incroyable d'être, de redevenir titulaire après 6 mois d'absence pour une finale d'Euro contre une équipe pareille, c'est assez incroyable.
Alors au-delà des compos, Manu, comment tu vois cette finale ?
Alors deux styles opposés qui vont s'affronter ce soir.
C'est-à-dire une équipe qui joue bien et une qui joue mal ?
Non, mais les Anglais jouent mieux hein, et leur dernier match était probablement leur meilleur match de la compétition et surtout ils ont trouvé un schéma tactique qui met en scène justement tout le secteur offensif et ils ont une meilleure structure aussi globale sur le plan collectif. Donc face à une équipe d'Espagne qui maîtrise parfaitement son sujet en termes de possession et de technique, avec justement les deux flèches sur les côtés, le retour de certains titulaires. Donc eux, ils ont des certitudes, des garanties dans pas mal de domaines. Les Anglais, il y a toujours cette incertitude, mais quelque part tu te dis que ils avancent masqués, ils avancent dans la peau d'un outsider dans ce match-là face à l'Espagne, mais ils sont capables de leur faire très mal parce que, comme je l'ai dit, ils ont réussi à trouver un système tactique qui leur permet d'exploiter justement leur qualité offensive. Sur le dernier match, ça a été flagrant. Mmh. Donc on va voir ce que ça va se passer, mais en termes de transition, même il y a des individualités du côté anglais qui sont capables de faire basculer le match à tout moment.
Oui. On y reviendra en détail sur cette sélection anglaise. Jeannot, niveau ambiance, il faut s'attendre à quoi ? À des Anglais qui prennent le dessus ?
Un déséquilibre total. Ouais. Alors, on explique hein, le partage des places mis à dispo des fédérations. 9000 pour l'Espagne, 9000 pour l'Angleterre. On est à 70 000 la capacité de l'Olympia Stadion de Berlin, c'est-à-dire qu'on a 1000 places de perdu par rapport à l'organisation du championnat d'Europe par l'UEFA. Sauf que bah, les Anglais sont des spécialistes de la récupération des billets, que ce soit par le biais d'Internet ou par d'autres systèmes. Et on nous annonce quasiment 48 000 supporters anglais dans le stade.
Et
quand tu vois,
dans
le stade, quand tu vois la composition de la tribune qui nous fait face, avec notamment l'ouverture sur le côté de la particularité de ce stade de Berlin et tous les drapeaux anglais qui ont été installés, bah, il n'y aura pas photo. Après, il y a du monde dehors pour l'instant et avec les tourniquets, il y a des petits soucis d'organisation, en tout cas de filtrage, ce qui veut dire que le stade n'est pas encore totalement plein. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'anglais, moins d'espagnols, mais beaucoup d'anglais aux buvettes, dans les coursives. Ça avait été déjà le cas en 2021 à Wembley. Ils étaient venus tardivement prendre leur place, mais c'est vrai que ça va être un déséquilibre total entre les supporters espagnols et les supporters anglais pour cette finale.
C'est pas forcément étonnant. Hein.
Non, mais c'est logique parce que déjà, la tradition espagnole fait que quand on n'a pas de billets, on ne va pas, ou très peu, à une finale ou à n'importe quel événement. On se rappelle ce qui s'est passé par exemple au Stade de France entre le Real et Liverpool. Il y avait beaucoup d'Anglais qui n'avaient pas de billets, les Espagnols sans billets n'étaient pas venus. Puis il y a aussi des questions d'argent. C'est-à-dire que les Anglais.
Le pouvoir d'achat
est plus élevé et surtout il y a une folie anglaise qu'il n'y a pas forcément autour de la sélection en Espagne. Donc il y a des Anglais qui sont capables de dépenser des fortunes pour un biomarché noir. Les Espagnols le font pour leur club, pas forcément pour la sélection.
Oui, alors que Julien, les Anglais ils se posent pas la question. Quand ils peuvent se déplacer, quand ils peuvent y aller, ils y vont.
Ouais, alors ils seraient 200 000 à Berlin.
Ah ouais,
Jeannot comme moi qui sont à Berlin. Ils sont partout, ils sont vraiment partout.
Ah, c'est impressionnant.
Ils ont leur drapeau à eux avec le drapeau anglais et ils cliquent dessus, vous savez, Manu sait bien aussi d'où ils viennent. Donc tu les vois absolument partout.
Alors par contre Julien, on t'entend pas très bien.
50 000 dans le stade.
Malheureusement, les 48 000 dans le stade font interférence avec ton téléphone.
Donc ils ont tous leur téléphone.
Dans une seconde, est-ce que vous croyez au grand soir pour les Anglais ? C'est le premier débat de cet avant-match. Dans une seconde, restez avec nous sur RMC. On est sur place à Berlin. Le coup d'envoi, c'est à 21h de cette finale de l'Euro. Et je vous rappelle, la grande soirée sur RMC, on a fait ça à chaque match de l'Euro. La rencontre en intégralité, le débrief dans l'after dès le coup de sifflet final et la libre antenne qui sera là pour la dernière fois de cette saison de minuit 30 à 1h30. Donc on vous accompagne jusqu'au bout de la nuit sur RMC. A tout de suite pour la suite de l'avant-match.
L'After Live, Intégral Euro,
Jean-Louis Tour.
Il est 20h10, on est avec Manu Petit de la Dream Team, Fred Hermel, Julien Laurence, nos spécialistes du foot espagnol et anglais, Jeannot Rességuier qui est à Berlin à 50 minutes du coup d'envoi de la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre. On va commencer nos débats par l'Angleterre. Est-ce que vous croyez au grand soir pour les Anglais ? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. C'est la deuxième finale d'Euro après celle de 2021. Julien, est-ce que tu sens, toi qui parles à beaucoup d'anglais, toi qui vis là-bas, que c'est différent ce soir, qui sont peut-être un peu plus près à la victoire finale, est-ce que tu sens des différences par rapport à il y a 3 ans?
Je pense qu'ils ont beaucoup appris déjà de la défaite d'il y a 3 ans à Wembley dans un match où ils ont ouvert le score très tôt et puis après ils ont fait un peu n'importe quoi. Je pense que c'est aussi ça a été une aventure très différente aussi de ce qui s'est passé il y a 3 ans, mais même ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde ou à la Coupe du Monde 2018, dans le sens où ils n'ont pas bien joué, ils ont eu beaucoup de réussite, ils ont eu une baraka assez incroyable et ils ont développé ce sens de, en gros, il ne peut rien nous arriver quoi. Clairement dans cette compétition, il ne peut rien nous arriver. Donc je pense qu'ils ont cette confiance en eux aussi. C'est la première finale de leur histoire en dehors de leur terre, puisque le 66 c'est à Wembley et la finale de 2021 elle est à Wembley aussi. Et peut-être que ça enlève dans un sens un peu de pression, bizarrement, de ne pas jouer chez toi devant ton public où tout le monde attend à ce que tu gagnes. Donc je pense que c'est vraiment une approche différente pour eux de celle d'il y a 3 ans. Et si on se rappelle que c'était passé par exemple avec les Bleus en 2016 et ensuite en 2018, je pense que tu apprends tellement d'une défaite pareille que ça te servira inévitablement pour celle d'après. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont plus de chances de gagner ce soir qu'ils avaient il y a 3 ans par exemple.
Toi, tu penses que c'est leur soir? Tu le sens un peu comme ça, et beaucoup d'Anglais le sentent aussi comme ça.
Moi, je pense qu'il peut rien leur arriver. Je pense qu'il peut rien leur arriver dans ce tournoi. Ils auraient dû être éliminés par la Slovaquie. Ils n'ont pas bien joué dans la phase de poule. Ils n'ont pas bien joué dans la phase d'élimination directe. Ils ont des joueurs clés comme Kane et Bellingham qui ne sont pas à 100%. Ils jouent pas bien collectivement, individuellement. Ça te sauve à droite, à gauche.
Mais ils vont gagner.
Partout. Et je pense qu'ils vont gagner. C'est ça qui fait qu'ils vont gagner.
Et tu sais que tu vas avoir droit à un gage quand même, parce que s'ils gagnent, tu vas être obligé d'aller claquer la bise à Southgate.
Ouais. Hein, et à Sylvain Paul.
Ah, attends.
Et nous invite au resto.
C'est pas parce que tu gagnes ce soir que tu deviens Pep Guardiola non plus. Hein.
Ah ouais, prêt à tout.
Voilà. Bah oui.
Non, bah oui. C'est vrai. Mais quand même. Non mais au-delà de ton cas,
tu vas quand même avoir du mal à ce que ça passe. Hein.
Non mais au-delà de ton cas personnel, non, mais... Julien, est-ce qu'il y a eu beaucoup de critiques envers Southgate et beaucoup de gens qui avalent leur chapeau depuis
10 fois pire que sur Deschamps.
Ah bon?
Ah oui.
Ouais, ça a été très dur. Ça a été plus dur que dans n'importe quelle compétition par le passé, parce qu'il a fait des choix bizarres. Il faut le reconnaître. Hein. Peut-être qu'il gagnera ce soir. Et sincèrement, c'est vraiment une bonne personne. On l'a répété, je lui souhaite. Mais il a fait quand même des choses bizarres et il a pris très cher. Et effectivement, depuis la demi-finale, depuis le quart de finale, ça ne retourne pas sa veste, mais on explique les choses d'une façon un tout petit peu différente en Angleterre, parce qu'ils sont toujours là, bien sûr, et c'est en partie aussi, dans un sens, grâce à lui. Il y a quand même beaucoup de manquements. Il y a quand même beaucoup de manquements sur cette compétition, sur les dernières compétitions aussi. On ne va pas revenir sur la finale de 2021, mais il avait quand même fait n'importe quoi quand son équipe menait au score à domicile contre les Italiens. Donc on verra ce soir, bien sûr, que ce soir, s'il gagne, ça change énormément dans la façon dont on a regardé, dont on va voir sa carrière à la tête de cette équipe d'Angleterre, ce qu'il a fait avec ces joueurs-là. Il a fait beaucoup de choses positives, mais il y a aussi beaucoup de moments où il a fait des choses négatives.
Mais Manu, tu partages ce que dit Julien, qu'il est quand même assez critique sur le niveau de cette équipe anglaise. Mmh. Est-ce que tu penses, toi, qu'ils ont quand même des armes, des atouts à faire valoir, ou c'est juste une question dans la tête des joueurs qui sont unis?
Dans la tête des joueurs qui sont unis sur les derniers matchs, j'ai vu une équipe, une vraie équipe en fait, solidaire, qui se battait ensemble, qui faisait les efforts ensemble, et c'était pas je reçois le ballon et je joue dans ma zone, non. Parce que les choses que j'ai pu constater notamment sur les matchs des poules, où c'était très très ennuyeux à regarder, parce qu'en fait les joueurs ne jouaient qu'à partir du moment où on leur donnait le ballon, quand on faisait rarement l'appel pour leurs coéquipiers, des courses perdues en fait. Donc Southgate a reçu énormément de critiques. Il a au moins eu le mérite dans cet Euro de jamais rester figé, d'accepter justement les critiques. Il y a une remise en question aussi de sa part, notamment sur le plan tactique. Il a passé son temps, match après match, à essayer de trouver le bon équipe, la bonne formation, notamment au milieu de terrain, où ça a été le gros sujet sur les 3 matchs des poules. Qui mettre à côté Declan Rice? Et en fait, Meinu, il est intervenu après, je crois que c'est Trent Alexander-Arnold qui a commencé à jouer. Après, il a fait jouer un autre joueur. Et après, Meinu est arrivé. Et Meinu s'est installé. Il a rééquilibré tout ça. Donc, moi, je suis pas basourdi. Je suis pas non plus, je n'ai pas tombé de ma chaise par rapport au jeu pratiqué par les Anglais. Et si jamais ils devaient gagner, ça me rappellera aussi des équipes qui ont fini vainqueurs d'une grande compétition sans marquer les esprits. Mais au final, l'histoire se rappellera qu'ils sont vainqueurs.
Là, j'ai l'impression qu'on parle de l'Euro de l'équipe de France jusqu'au moment où on a joué les Espagnols.
C'est ça.
Et sauf qu'à l'arrivée, il y a eu les Espagnols en face, quoi, qui ont mis en lumière.
Moi, je ne suis pas aussi confiant, même si je sais que ça ne sera pas aussi facile pour les Espagnols, parce que ça reste une finale, et que les Anglais ont des armes et des atouts pour leur faire très très mal. Mais, encore une fois, moi, je suis pour que le football triomphe. J'étais déçu que la France perde contre l'Espagne, mais au final, c'est le football qui a triomphé parce qu'ils nous ont fait une belle production de football collectif. Donc ce soir, je veux bien qu'ils aient une nullité, je veux bien qu'ils ont pris du poids de la bête, je veux bien qu'ils ont le sentiment d'être imperturbables et imbattables. D'ailleurs, je crois que c'est Gary Lineker qui disait dans la presse aujourd'hui que cette équipe anglaise, lui qui a été très critique sur Southgate, cette équipe anglaise lui rappelle fortement le Real Madrid de la Champions League où à chaque fois il passait alors que c'était l'équipe la moins forte.
D'ailleurs, il y a un but de Bellingham typique du Real Madrid, le but de l'égalisation contre la Slovaquie à 94e minute.
Mais Watkins aussi.
Oui, Watkins, ça fait penser à José Lu qui met un doublé.
Exactement. Ouais, donc, c'est... Je peux comprendre Julien qu'il ait ce sentiment-là.
Mais moi, ça me fait peur.
Mais sincèrement, en face, t'as quand même une réponse collective, quoi, avec des joueurs qui sont en pleine confiance, ils vont retrouver leur équipe type.
Julien, tu disais le banc aussi.
Ouais, le banc anglais est supérieur au banc espagnol. Oui. Et je pense qu'à un moment, si le match est à 0-0, un partout, même si tu perds un 1-0 à la 65e minute, si tu fais rentrer un Watkins ou même un Tony, si tu fais rentrer Palmer, si tu fais rentrer ce genre de joueur-là, ça peut faire une énorme différence, comme on l'a vu contre les Pays-Bas. Mais à mon avis, c'est ça aussi la grande différence.
Il a raison, Julien.
Tu me permets, les changements offensifs espagnols, c'est Oyarzabal, c'est Rossellou.
Oui. Bah, t'as éliminé l'Espagne grâce aux joueurs de banc.
Bien sûr aussi, Merino rentre au milieu de terrain, très important. Mais c'est vrai qu'au niveau qualitatif, sur le papier, les remplacements sont plus favorables aux Anglais.
Et regarde tous les matchs qu'ont eu les Anglais depuis le début de la compétition. À chaque fois, les changements ont eu un impact sur le match. Et ils ont fait basculer, soit ils ont été passeurs ou buteurs, la plupart du temps.
Oui, mais encore une fois, il y a les contre-exemples aussi avec l'Espagne. Le but contre l'Allemagne aussi, en prolongation.
Vous me parliez du banc de l'Espagne qui n'est pas identique à celui de l'Angleterre. Moi, je veux bien, mais rappelez-vous, contre la France, il y avait trois titulaires en moins.
C'est ce que j'étais en train de dire, Manu.
Exactement.
Ils ont quand même un réservoir. Voilà. Alors, on va donner la parole à Moya qui nous rejoint, qui est supporter de l'Angleterre au 32-16 sur RMC. Salut, Moya.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir, Moya. Anglaise, Moya.
Oui, d'origine.
Ah oui, je l'entends à l'accent, oui.
Oui, c'est ça.
Ça fait plaisir d'entendre une femme.
Alors, c'est le grand soir pour l'Angleterre, pour la sélection ?
Écoutez, je dois avouer que je ne connais pas la sélection, je ne connais pas les joueurs. Mmh. Mais normalement, ils arrivent à sortir une équipe qui est assez bonne, parce que sinon, ils ne seraient pas là. Maintenant, on va savoir, parce qu'ils ont tellement joué de malchance ces dernières années que moi, j'en suis arrivée à croire que ils ne gagneront jamais rien.
Ah oui.
Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de croiser les doigts.
Et, et vous pensez quoi de Southgate, du sélectionneur ?
Je le déteste.
Mais je ne connais pas les joueurs, mais je déteste le sélectionneur.
C'est madame, tu n'as mis de Julien Laurence.
Mais pourquoi ?
Excellent.
Ben, d'abord, il est moche.
Ah non, mais là, c'est pas un critère. Ah,
ça, c'est dégueulasse. Ah, non, on n'a pas le droit.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Mais il est anglais.
Julien, il se régale. Non, mais à part ça, Moya.
Non, parce que il est très sûr de lui-même.
Ouais.
Pour moi, c'est pas un meneur d'hommes, c'est un séparateur d'hommes. Il donne des instructions hasardeuses à son équipe, et de sorte qu'eux, ils ne savent plus où ils en sont. Là, par exemple, le dernier match contre la France, qu'ils ont gagné, il a dit à trois gars, sur le dos de Mbappé, d'immobiliser Mbappé. Ils étaient trois. Mmh. Et ils étaient tellement crevés à la fin de courir derrière Mbappé que lui, il en avait marre lui aussi. Lui, désormais, était dans défense. Et pendant ce temps-là, les Français marquaient des buts.
Eh oui.
Donc, c'était complètement mal vu de sa part. Et puis, c'était contre les Italiens. À la fin, il y avait les tirs au but. Et ça, c'était un désastre aussi. Au lieu de faire...
Ça, c'était en 2021.
Ça devait être. Et c'était un désastre parce qu'il avait fait venir sur le terrain des gamins qui n'avaient pas joué jusqu'à là. Et puis tout d'un coup, tout beau, tout frais, ils sont là en train de balancer des buts contre l'Italie.
Ah oui.
Et
on se rappelle de Saka qui rate son pénalty. Mais Moya, vous vivez en France ?
Comment ?
Vous vivez en France ?
Oui, bien sûr. Oui.
Ah, très bien. Depuis quand ?
Oh là là, il y a longtemps. je me suis mariée avec mon mari en 1900, je crois que c'était 77.
Voilà, ah oui, d'accord. Et votre mari est français ?
Il était français.
Il était français.
Ouais. Ouais.
D'accord. T'en as d'autres des questions personnelles comme ça à poser à Raya ?
Excuse-moi, une auditrice comme Moya qui nous appelle franco-anglaise avec ce français parfait et qui en plus défonce Southgate, nous ça nous plaît sur RMC.
J'ai envie de la connaître un peu mieux.
Casting.
Voilà, c'est un job pour la
c'est parfait c'est... sur RMC.
Si bah, vous voulez, on pourrait toujours vous le bander, hein, Southgate, si vous faites marrer.
Oui, c'est vrai qu'il nous fait marrer. Mais bon, bah on a trouvé quelqu'un pour succéder à Julien Laurent si un jour il s'en va. Hein.
C'est bon.
Voilà, ouais, c'est la même ligne éditoriale. Bon, Moya, vous regardez le match quand même ?
Oui, oui, je vais chez une copine, là, je suis dans la voiture.
Très bien. Bon, bah, parfait.
Je suis à Nice, et là, je suis sur la prom, en train de regarder les gens qui passent, à bicyclette et à pied sans doute, qui rentrent chez eux en vitesse pour voir le match.
Eh, c'est ça. Merci, Moya. Continuez d'écouter RMC, là, en allant voir votre ami. Jusqu'au coup d'envoi, on est là, et après le match en intégralité.
Voilà, j'ai le téléphone mobile à côté de moi.
D'accord.
Voilà.
Très
bon
bien.
Match à tous.
Merci Moya.
Merci Moya.
À tous sur RMC.
Au revoir.
Ah, ça alors.
Ah, c'est énorme.
Ah, Julien Laurent, c'est leader d'opinion. Hein. Tout le monde écoute ce qu'il dit et répète après. Hein.
C'est en fait, il a demandé à sa mère d'appeler en fait.
Je crois que... C'est le seul argument contre Southgate que n'a jamais utilisé. Julien Laurent, c'est
il est moche. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Bon, on remercie Moya. Julien, on te remercie aussi. Tu voulais ajouter un truc ou pas ? Non, c'est bon, elle a fait le travail pour toi, Moya.
C'est pareil pour moi, là, c'est bon. Je pense qu'elle a, elle a enterré Southgate. Donc, non, mais.
Je pense qu'il y a un décalage avec Julien. Donc, on va rester
home.
Là. Voilà, it's coming home.
Yeah.
Et dans une seconde, on parle des droits télé, Manu, puisque enfin.
On a trouvé une solution.
Je ne sais pas si le consommateur est gagnant dans l'histoire. J'ai des doutes. On vous résume tout de l'offre qui a été acceptée par la Ligue de foot aujourd'hui. Le duo DAZN Bein Sport va diffuser la Ligue 1. On vous explique tout dans une seconde et vous pouvez réagir au 32-16. Parenthèse hors euro avant de revenir sur l'avant-match d'Espagne-Angleterre. La finale de l'euro, c'est ce soir sur RMC. Le coup d'envoi, c'est à 21h. À tout de suite.
L'After Live, intégral euro.
Jean-Louis Tour.
Dans 34 minutes, c'est le coup d'envoi de la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre. Ce sera en intégralité sur RMC avec Manu Petit, Fred Hermel. Julien Laurence nous rejoindra tout à l'heure pour débriefer la rencontre. Mais on est également avec Jeannot Rességuier en direct de Berlin. Jeannot, sous tes yeux, échauffement des deux équipes, j'imagine ?
Exactement, avec d'abord les Anglais qui sont arrivés sur la pelouse, puis ensuite les Espagnols. Et alors, j'ai envie de dire presque dans l'anonymat, parce qu'encore une fois, le stade n'est pas rempli. Du coup, on n'a pas tant entendu de clameurs que ça pour les Anglais, alors qu'on rappelle que les Anglais seront largement supérieurs aux Espagnols dans le stade ce soir ici à Berlin. Et pareil pour les Espagnols. Donc, cet échauffement se déroule pour l'instant presque en catimini.
C'est vrai, ça, on n'a rien entendu. Ah ouais. Ça change les matchs de l'équipe de France. On avait le micro d'Arthur Perrault avec les supporters. Là.
Oui,
il y avait une vraie clameur. Mais bon. Alors, c'était il y a longtemps, les matchs de l'équipe de France.
En même temps, il y avait un micro sur le bord de la pelouse qui t'apportait justement ce soutien-là.
C'est ça. Bon, dans donc une grosse demi-heure maintenant, la finale de l'Euro. Mais Manu, tu réclamais tout ce mois-ci dans Rotten sans flamme. Enfin, un dénouement pour les droits télé de la Ligue 1. Ça y est, Nicolas Pelletier nous rejoint. Salut Nico.
Bonsoir à tous.
Grâce au boulot de la cellule droit télé, notamment d'Arthur Perrault, on a pu avoir tout au long de la journée les infos avant les autres sur ce dossier donc très important. On a enfin des diffuseurs pour la saison prochaine.
On a deux diffuseurs pour la saison prochaine, DAZN et Bein Sport. DAZN est souvent, c'est une entreprise anglaise fondée en 2015, souvent présentée comme le Netflix du sport, très peu connu du grand public en France, qui a acquis 8 des 9 matchs de championnat de Ligue 1 par journée. Et l'affiche qui reste sera diffusée par Bein Sport, bien connue en France, et qui dispose de l'ouverture et qui dispose de plusieurs millions d'abonnés en France. Ils auront un match par journée. Le deal entier tourne autour des 500 millions d'euros pour les droits TV domestiques. Et il faudra ajouter à cela les 150 à 160 millions d'euros pour les droits TV internationaux. Donc, autour de ces droits TV, il y aura 650 millions d'euros pour les droits TV. Alors, des clubs de Ligue 1.
J'ai plein de questions. Déjà, juste le match de Bein Sport, est-ce qu'on peut dire que c'est la grosse affiche du dimanche ou non ?
On ne peut pas encore le dire.
Ok.
on peut pas.
Ce sera un beau match, mais beau pas match, forcément mais pas le meilleur de,
que ça
du
soit le meilleur du week-end.
Ok. Et donc tu dis 650 millions d'euros pour les clubs, mais il faut enlever plein de choses à ces 650.
Et il faut aussi bien dissocier les 500 millions de droits domestiques qui vont être dispersés entre tous les clubs et les 150 millions de droits internationaux qui sont dispersés entre des clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Donc tous les clubs ne vont pas toucher ces 150 millions d'euros. Et sur les 500 millions d'euros, ce n'est pas ce qui va revenir dans la poche des clubs de Ligue 1 parce qu'il faut enlever la taxe Buffet de 5%, le prélèvement de CVC, le fonds d'investissement qui a investi dans la LFP de 20% cette année. Il faut aussi enlever le train de vie de la LFP, les subventions à la FFF, les subventions aux syndicats.
Donc il va rester combien pour les clubs ?
Il devrait rester autour de 350 à 400 millions d'euros pour les clubs.
On n'est pas sorti de la galère, Manu.
Ah ben j'ai une pensée pour tous les petits clubs qui doivent rembourser le PGE, le prêt garanti par l'État également, je pense cette année, hein, qui rentrent en activité. Donc le peu de trésorerie, le manque de trésorerie avait obligé le football français dans la panique à signer ce contrat avec CVC après la pandémie. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait les espoirs de gagner un milliard, on en est à 30, un peu plus de 30% aujourd'hui. Donc il risque d'y avoir des dommages collatéraux justement dans les clubs. Et j'en reviens à l'Assemblée nationale quand il y a eu les auditions justement de Sénat de Valdemar Quitta qui disait, qui répondait à un sénateur, concrètement ça veut dire quoi? Bah, qu'il y aura des licenciements. Moi je pense qu'on s'oriente vers des licenciements dans certains clubs professionnels.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la réunion, il y a eu le conseil d'administration ce soir, dimanche soir. Voilà, il y a eu aussi une réunion très, très chaude entre les présidents de Ligue 1 lors d'un collège de Ligue 1 organisé en fin de journée, notamment des échanges très vifs entre le président du RC Lens, Joseph Fougourlian, et le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Donc tout ça, vous pouvez le lire sur rmcsport.fr.
Notamment sur la création de la chaîne de la Ligue 1.
Nasser El Khelaifi qui était opposé à cette création de la chaîne 100% Ligue 1.
Je me mets à la place du consommateur maintenant, du fan de foot. On va donner la parole à Emmanuel dans une seconde qui a fait le 32-16.
Tu vires tes abonnements.
Il va écouter la radio.
Qu'est-ce que tu peux... Alors, ça, bien sûr, Jeannot. En plus, c'est gratuit. Quel luxe
qu'on offre. Tu verras que tu auras de plus en plus de gens qui écouteront la radio.
Comment ça va se passer, Nico? Est-ce qu'on a une idée du prix des abonnements?
Déjà, pour le match qui est sur Bein Sport, l'abonnement à Bein Sport, il est à 15 euros. Celui-là, il ne changera pas. On connaît le prix de l'abonnement. Pour ce qui est de DAZN, le prix qui a été évoqué aujourd'hui par les représentants de DAZN lors de ce conseil d'administration est compris entre 30 à 40 euros par mois pour avoir les 8 matchs de championnat plus l'offre de DAZN. Mais le catalogue de DAZN, on l'a regardé.
Donc ça fait 50 euros par mois si tu veux regarder toute la Ligue.
Si tu veux regarder toute la Ligue.
Attends, mais Bein Sport, c'est 15 euros.
C'est 15 euros.
Mais quand tu as déjà accès à Bein Sport?
Oui.
Donc quand tu as déjà Canal, puisque Bein Sport est distribué
par Canal, mais donc tu peux aussi l'avoir avec SFR par exemple, tu peux l'avoir avec une box SFR. Bein Sport n'est pas distribué exclusivement par Canal, plus tu peux l'avoir quand tu as une box SFR. C'est pour ça qu'il y a des accords avec les autres distributeurs.
D'accord, je crois que c'est exclusivement Canal leur accord de distribution.
Oui, mais c'est ça qui est un peu étonnant. On a regardé tout à l'heure avec Jérôme Sillon, pour ne pas le citer.
Bon, okay.
Et donc il y a beaucoup d'offres pour Bein Sport. Bon, en tout cas, c'est 15 euros. Et puis on a cette offre de 30 à 40 euros pour ce qui est de DAZN pour les 8 autres matchs de championnat. Et c'est 30 à 40 euros par mois. Ça fait un peu plus de 300 euros par an. Alors, ce qu'ils ont expliqué aujourd'hui, c'est que ça serait 30 euros avec un engagement de 12 mois et 40 euros sans engagement. Et on a regardé, parce que DAZN dispose de la Serie A en Italie, c'est le diffuseur domestique en Italie, et c'est exactement les mêmes prix. C'est 40 euros pour avoir la Serie A en Italie et 30 euros si on a un engagement de 12 mois.
On connaît le nombre d'Italiens. Mais la Serie A, il y a tous les matchs.
Exactement, il y a 100%
là,
des matchs.
Là, c'est 8 matchs sur
9. Ils ont combien d'abonnés là-bas en Italie?
Ça débute cette saison. Donc on
sait pas encore.
Ok, d'accord.
Emmanuel,
après, si
rejoint...
je peux me permettre, oui, Jeannot, juste avant une Emmanuel. Question par rapport à DAZN, parce que moi, je suis un usager et j'ai pris un abonnement sport dans lequel il y a sur Canal avec Bein et DAZN. DAZN va quitter la diffusion de Canal. Donc à partir du 12 juillet, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu,
exactement.
Ça veut dire qu'aujourd'hui DAZN, on ne sait pas du tout comment on va pouvoir le regarder des box par exemple.
Tu pourras l'avoir comme tu avais Amazon Prime l'année dernière sur ta tablette avec l'application.
Donc ça veut dire
DAZN.
Qu'on est dans la culture d'une nouvelle ère de diffusion.
Attention, Jeannot.
Il peut y avoir des accords de distribution.
Attention, Jeannot, dans les prochaines semaines, il peut aussi y avoir des nouvelles négociations avec Canal et les autres distributeurs comme SFR, Orange ou Free.
On est d'accord.
Pour avoir
mais d'un point de vue commercial, il y a eu des offres qui ont été proposées et qui aujourd'hui ne sont plus en vigueur.
C'est ça, depuis deux jours. Ouais. Exactement, Jeannot. Emmanuel nous rejoint au 32-16, supporter du PSG sur RMC dans ce dossier droit télé. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir.
Bonsoir.
Toi, tu vas arrêter de regarder la Ligue 1, c'est ça ?
Ah bah ouais. Bah là, à un moment, je pense qu'il faut dire stop aux raquettes. Parce que c'est ni plus ni moins que du racket, comme vous l'avez bien dit. 55 euros par mois pour regarder la Ligue 1. Moi, j'ai 51 balais. Je fais partie de la génération Canal+. Voilà, j'ai commencé à vraiment suivre le foot au milieu des années 80. Et ce soir, c'est un grand moment de tristesse pour moi. Parce que bah, tout ça, tout simplement, bah, je vais dire adieu à mon championnat. Voilà, je sais pas, bah, je suivrai ça de loin. J'écouterai peut-être encore plus RMC, même si parfois je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur certaines choses. Mais je pense
pas pendant les matchs quand même.
Comment ?
Pendant les matchs, c'est les matchs. Hein, y a pas.
Ouais,
pas
pendant les matchs, c'est les matchs. Mais voilà, on en est là, quoi. On en est. C'est pour. Je pense qu'on va être. Très nombreux en France à être des passionnés, des supporters d'un club, qu'on soit de.
Bah, moi, je suis pour Paris. Parce que là, t'avais quoi comme abonnement, Emmanuel ?
Ah ben moi, pour l'instant, moi j'avais Canal+ et ouais. J'avais Amazon. Okay. Donc ça restait encore gérable. Mais là,
Canal et Amazon, ça a monté quand même à 45 euros. Mais, enfin, mais t'avais plein d'autres choses.
Quand t'as Canal, t'as le cinéma et t'as les séries avec, donc ça a rien à voir.
Et puis avec Canal, il y a une offre globale avec d'autres sports. Là, je vais pas juste mettre 55 balles. Juste pour la Ligue 1.
Oui, parce qu'on précise que le catalogue de DAZN est très restreint. Il y a la Jupiler Pro League, le championnat belge diffusé sur DAZN. Il y a la Ligue des champions féminines. Ou alors il y a la Betclic Elite, enfin le championnat de basket français. Donc ce n'est pas un catalogue très important.
Oui, on dénigre rien, mais bon, ça ne fait pas rêver. Donc Emmanuel, tu vas écouter la radio, tu vas aller au stade ?
Le stade, le Parc des Princes est devenu inaccessible.
Ah oui.
Ouais. Le prix des places, donc ça va être la radio. Et puis on verra bien si l'oncle américain, comme on dit entre internautes, tout nous permettra de trouver une solution, quoi. Voilà, faut être clair.
C'est le piratage, hein.
Bah oui, le streaming. D'ailleurs, ils s'en plaignent de plus en plus, les téléopérateurs. Oui. Mais enfin,
même les présidents.
Ils augmentent, ça ne fait que favoriser justement le streaming.
Exactement. Ouais. Bon, Emmanuel, je t'écoute plus RMC, nous, ça nous fait plaisir.
Bah ouais. Merci les gars.
À bientôt. Salut Emmanuel.
Et c'est un contrat de quoi ? 4 ans, c'est ça ?
Ah, autre bonne question, c'est... Manu, bravo.
Pour l'instant,
ça m'arrive de temps en temps.
Nous, on était sur un contrat de 5 ans, mais il y a peut-être une clause de sortie au bout de 2 ou 3 ans qui sera négociée dans les prochaines semaines par les présidents avec les diffuseurs.
Une clause de sortie, quoi ? De la part des téléopérateurs ou
de la part des présidents, enfin de la LFP.
En gros, s'ils estiment
au bout de 2 ou 3 ans
que ça marche pas, il y a pas suffisamment d'abonnés, ils décident de sortir avant que l'an prochain.
Oui, ou
donc de professionnels.
Refaire un appel d'offres.
Des professionnels qui se sont succédés année après année pour prendre la Ligue 1, eux, si jamais ça marche pas, dans 2 ans, ils vont décider de le faire eux, alors que c'est pas leur métier. On est d'accord, c'est ça,
exactement.
Globalement. Bah super. Donc on n'a pas fini de creuser, en fait. Hein.
On n'a pas fini de creuser, effectivement. Et on va voir comment les clubs vont s'organiser sur ce mercato, s'ils arrivent quand même à faire des coups, à quel point les masses salariales vont être diminuées après donc cette annonce aujourd'hui. Du dénouement dans ce feuilleton des droits télé. Merci Nicolas Pelletier. Les infos, je vous le rappelle à nouveau, grâce à Arthur Perrault sur rmcsport.fr, en détail si vous êtes arrivé en cours de route et qu'il vous manque un élément. Allez-y, on revient dans une seconde sur notre finale de l'Euro. Le foot gratuit à la radio sur RMC, c'est dans 23 minutes le coup d'envoi d'Espagne-Angleterre. On va se poser sur l'Espagne. Est-ce qu'il y a un risque d'excès de confiance avec cette sélection ? Tout le monde dit que c'est la meilleure équipe d'Europe, qu'elle joue le mieux, le meilleur football. Est-ce que ça peut arriver à cet excès de confiance ? 32-16, à tout de suite pour débattre avec Manu Petit.
C'est l'After Live, Intégral Euro,
Jean-Louis Tour.
Dans 21 minutes, coup d'envoi du dernier match de cet Euro, la finale de l'Euro 2024. C'est à Berlin, entre l'Espagne et l'Angleterre. On était avec Manu Petit, Jeannot Rességuier, on sera avec Fred Hermel pendant la rencontre. On va d'ailleurs s'arrêter sur l'Espagne dans une seconde. Est-ce que cette équipe peut faire preuve d'excès de confiance ? Vous pouvez venir au 32-16 pour débattre. Envoyez vos messages sur Direct Studio. On est également sur le YouTube de l'After, où vous pouvez envoyer vos messages. On rappelle les deux compos d'équipe, Jeannot ? À 20 minutes du coup d'envoi.
Avec Unai Simon dans les buts pour l'Espagne, la défense à 4, Cucurella à gauche, Carvajal le retour à droite, le Normand lui aussi de retour de suspension avec Laporte pour la charnière, les deux Français naturalisés espagnols, Fabien Ruiz avec Rodri et Dani Olmo pour les trois demi-milieux de terrain, Williams à gauche, Yamal à droite et Morata dans l'axe, le capitaine et avant-centre de cette équipe espagnole pour l'Angleterre, Pickford dans les buts, Walker, Stones et Gueye pour la défense à 3, Saka piston droit, Shaw piston gauche, et le pari pris par Gareth Southgate puisque Trippier a des douleurs musculaires, Menou Rice pour le milieu de terrain avec Foden à droite, Bellingham à gauche et Harry Kane, le capitaine, sera dans l'axe de l'attaque anglaise. François Le Texier, arbitre français de la rencontre.
Et là, comment ça va se passer? Il y a une petite cérémonie de clôture?
Oui, à partir de 20h45, ce sera un concept créatif avec la poignée de main ultime par rapport à la finale. On est en train d'ailleurs de mettre en place sous nos yeux un tapis qui va recouvrir la pelouse. Tapis blanc et les couleurs toujours les mêmes, bariolées, bleu, jaune, rouge et blanche, avec tous les motifs que l'on a pu découvrir autour de l'euro et du logo. Et à chaque protocole d'avant-match, ces fameuses couleurs qui ont ravi pendant toute la compétition un certain Manuel Petit.
Oh oui, il s'est régalé là, au dernier match de France-Espagne.
Qu'est-ce qu'il y a eu?
Tu te rappelles pas la cérémonie d'avant-match et tout? On s'est régalé avec ces feux d'artifice. Il se rappelle même pas. Moi, c'est pas grave.
Quoi, le spectacle de pyrotechnique, ouais, là, ouais. Avec les pétards que t'achètes au magasin normal, hein.
Bah oui, le 14 juillet, c'est normal.
C'est sublime, magnifique. Quand tu vois le pognon qu'ils sont pris encore pendant l'Euro, l'UEFA, tu te dis, je sais pas, moi, je veux dire, t'as vu les. Non, mais tu rigoles.
Parce que j'ai mis une petite pièce dans la machine, c'est tout.
Bah oui, ouais, parce que t'as une petite pièce. J'attends de voir pour la finale s'ils ont préparé quelque chose de particulier.
Ah là, la cérémonie, elle va être grandiose.
C'est quoi? Ah, c'est encore les trucs, les drapeaux, là, sur le terrain là.
Non. On va se rapprocher de la cérémonie d'ouverture. Il y aura déjà la chanteuse pop allemande Léonie qui va interpréter Fire. C'est la chanson de ce championnat d'Europe qu'on a entendu un petit peu partout durant la compétition et chez nous également sur RMC. Il y aura un petit peu aussi de hip-hop, de street style. Donc voilà. Et puis après, il y a le trophée qui va arriver des mains du capitaine italien Giorgio Chiellini, champion en 2021. Tout et est en train de se mettre en place.
Un clin d'œil vers la future édition. Peut-être?
Alors, non. Irlande, j'ai posé la question, on m'a dit non. On m'a dit non pour l'instant. Alors, peut-être qu'à la fin du match, il y aura un petit clin d'œil justement au Royaume-Uni, hein, puisque ce sera en 2028. On verra tout à l'heure. Peut-être que le clin d'œil sera amené par les Anglais qui soulèveront eux-mêmes le trophée et qui auront été champions d'Europe 2024. Mais pour l'instant, en tout cas sur la cérémonie de clôture, il n'y a pas de clin d'œil à la prochaine édition. Il y a juste le trophée qui sera donc amené, présenté avant l'entrée des équipes et comme vous le savez à chaque fois, les joueurs qui passent juste à côté.
Bien sûr, on va partir sur l'Espagne dans une seconde avec Fred Hermel, mais d'abord Manu, on parie sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Yoann Guillet de la rédaction des Paris RMC, salut Yoann.
Salut messieurs, salut à tous.
Alors les cotes assez équilibrées, hein.
Assez équilibrées, oui, l'Espagne est à 2,50, l'Angleterre 3,60, le match nul 2,90. Belle cote pour l'Angleterre, mais surtout belle cote pour l'Espagne, ça ne tournait pas forcément à ça. Mais messieurs, justement, je vois un match équilibré et au bout du compte, l'Espagne qui s'impose. Match nul à la mi-temps, puis victoire de l'Espagne, c'est coté à 5,20.
C'est beau, je trouve ça pas mal du tout. Mais Manu, il voit pas la victoire de l'Espagne à la fin. Il va nous dire match nul, Manu.
Non, je pareil que toi, exactement pareil. Bah je vois l'Espagne l'emporter sur un score étriqué.
Très bien, bah, nul à la mi-temps et victoire de l'Espagne, c'est coté à 5,20 donc. Et sinon, messieurs, ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est un écart de but, l'Espagne qui s'impose par exactement un but d'écart, c'est coté à 3,80.
Et par au moins deux buts d'écart.
Ah.
Un scénario à la Italie-Espagne 2012, tu vois. L'Espagne gagne largement.
C'est ce que Clément Brossard m'a proposé tout à l'heure sur la Digital. Au moins deux buts d'écart pour l'Espagne, coté à 4,30.
Et bah parfait, on prend ça. Merci Johan, rmcsport.fr pour les conseils de la Dream Team.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et la digitale à laquelle faisait allusion Yoann Guigné il y a un instant, c'est la radio 100% euro qu'on vous a proposée pendant l'intégralité de la compétition où vous aviez bas de l'euro en intégralité 24 heures sur 24. On salue au passage donc tous ceux qui ont bossé sur cette digitale. Fred Hermel est de retour avec nous. Fred, est-ce que selon toi, l'excès de confiance est possible pour les Espagnols, à qui on dit depuis le début de la compète que c'est la meilleure équipe de l'Euro? Ils le savent aussi, ils ont souvent confiance en eux, les Espagnols, en matière de jeu et de foot. Est-ce que cet excès de confiance est possible?
Zéro risque. Pas vraiment. D'accord. Vraiment, dans toutes les déclarations, enfin, l'attitude... De toute façon, une sélection, ça ressemble aussi à son sélectionneur, je trouve. Mm-hmm. Et Luis de la Fuente, c'est quand même quelqu'un de très modeste, une approche très calme, mm-hmm. C'est quelqu'un qui est très croyant, voilà, et qui plaisante même un peu avec ça, etc. Enfin, il est, j'aime bien, enfin, il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Moi, je dis depuis, depuis la victoire en Ligue des Nations, que cette Espagne, pardonnez-moi l'expression, est une équipe qui ne pète pas plus haut que son cul. C'est-à-dire, elle ne s'est jamais vue trop belle. C'est à chaque fois.
C'est important, ça.
À chaque fois, il y a un petit palier qui est franchi. Et moi, ce que j'ai aimé pendant cet Euro, c'est que j'ai appris des choses sur cette équipe à chaque match. Chaque match, il y avait une petite conclusion en disant « Ah oui, tiens, ils sont capables de ça. Ah oui, tiens, ce truc-là. Ah oui, même le match, par exemple. Moi, le match de, qui ne comptait pour rien, contre l'Albanie, le troisième match, ils étaient premiers de groupe qualifiés. Les deux petites perles là du côté, Lamal et Nico. Lamine Yamal et Nico Williams étaient sur le banc. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que Oyarzabal et Ferran Torres qui est remplacé jouaient exactement dans le même dispositif tactique. C'est-à-dire que le sélectionneur jouait sur les ailes, pas uniquement parce qu'il avait les deux pépites, mais parce qu'il avait vraiment envie de le faire. Ces deux autres joueurs, normalement, ne sont pas utilisés comme ça. En tout cas, pas autant. Et là, voilà, il y avait des enseignements à chaque match. Après, le match que j'ai découvert contre l'Allemagne, c'est la compétitivité de cette équipe. Vraiment, c'est une équipe qui savait, au-delà de la jeunesse, de la fougue, etc., c'est une équipe qui savait être très très solide et très compétitive dans les moments compliqués. Donc, et ce soir, peut-être qu'on va apprendre encore une chose nouvelle.
C'est important l'humilité.
Bah, l'humilité dans la communication, je veux bien, mais il dit quand même une phrase, hein, La Fuente, sur l'entraîneur espagnol, justement, dans les déclarations qu'il a faites, où il dit, avant cette compétition, les favoris étaient l'Angleterre et la France. Et nous, on faisait même pas à peine partie des outsiders.
Non, c'est vrai.
Et aujourd'hui, on se retrouve en finale comme étant la meilleure équipe qui a pratiqué le plus beau jeu. Et on a éliminé un des favoris sur le tour précédent. Et maintenant, on rencontre l'autre favori en finale, en sachant que l'Allemagne faisait partie des favoris parce qu'elle organisait la compétition chez elle. Donc, il y a quand même de la fierté, de l'orgueil derrière. Oui, oui. Tu sens qu'ils ont été vexés, ils l'ont pris du mauvais côté.
Mais surtout en Espagne.
Oui, mais
personne ne leur donnait. Personne ne parie sur l'Espagne. En l'Espagne avant.
Mais je dis pas que c'est de l'arrogance, Fredo.
Non. Mais ils ont raison de réagir comme ça.
Oui, mais c'est presque de l'orgueil transformé en une certaine arrogance. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Le fait de te faire des déclarations comme ça, même en étant extrêmement pacifique et humble dans ses propos, c'est que lui, il a été blessé. Je pense que ses joueurs l'ont été également.
Enfin, lui a été blessé pour une raison très simple, c'est que s'il ne gagnait pas la Ligue des Nations il y a un an, il était viré au bout de 6 mois. Donc voilà, il y avait un ultimatum. Hein. Il n'était pas très convaincant, a priori. Hein.
D'ailleurs, tu parles de la Ligue des Nations, ils ont perdu contre l'équipe d'Angleterre en Ligue des Nations, 3-2, il me semble.
C'est tellement de là, je ne me souviens plus.
Il me semble. Hein. La dernière confrontation de l'Espagne, c'est souvent des scores où une fois c'est l'Espagne qui gagne, une fois c'est l'Angleterre qui gagne. C'est rarement défini, tu sais, sur la durée, tu vois.
Ouais, j'aime pas qu'on nous pose des colles comme ça.
Ouais, mais là, franchement, je me suis...
Bah, je me rappelle la match 3-2 où l'Angleterre est allée gagner en Espagne 3-2.
L'Angleterre est allée gagner en Ligue des Nations. 3-2 en Ligue des Nations. Je sais pas.
Messieurs, juste un petit mot sur la cérémonie de clôture avec les différentes chorégraphies qui nous ont été proposées. Elle est là, elle existe, Manu. Autour du respect, de la rivalité, la poignée de main, l'inclusion, le fair play. Et là, à l'instant même, vous l'entendez derrière moi, la chanteuse pop Léonie allemande qui interprète Fire, la chanson de l'Euro. Morceau qu'elle a enregistré avec le groupe américain One Republic et le duo italien Medusa. Ils sont tous là au milieu de la pelouse de l'Olympia Stadion de Berlin.
Je le trouve pas ton Angleterre-Espagne.
Ouais, c'est pour ça que
je... sûr. C'est mes souvenirs, mais il me semble. Hein.
T'as le souvenir d'un match accroché?
Ouais, 3-2 récent entre l'Espagne et l'Angleterre qui s'est imposé à l'extérieur, il me semble, 3-2.
Fredo, tu te rappelles même pas de ça.
Ouais, tu sais, il y a tellement de matchs qu'à un moment, tu sais, tu es. Et puis moi, ça fait 30 ans que je les suis, donc là, je commence à confondre, tu sais, pilage, tu sais, c'est pas facile.
Bon, je vais te le retrouver. Puisque Jean-Louis, apparemment, il rame.
J'arrive pas à trouver, puis en même temps, je suis subjugué par le spectacle de la cérémonie de clôture, donc je peux pas être partout, Manu. Oui. Écoute, pour une fois, on a un vrai beau spectacle.
T'es taquin, toi. Hein.
Pourquoi ?
T'aimes bien remuer le couteau dans la plaie.
Pas du tout, mais j'explique pour ceux qui nous écoutent sur RMC, qui se demandent c'est quoi cette chanson, cette musique. Voilà.
Voilà ceux qui suivent le championnat d'Europe depuis le début, c'est-à-dire depuis le 14 juin dernier. La musique, ils la connaissent, hein, c'est tout simplement celle que l'on entend chaque fois pour les matchs ici en Allemagne depuis le début de la compétition, avec donc aussi cette chanson que l'on a entendue durant toute la compétition sur l'antenne d'RMC avec tout l'habillage du championnat d'Europe.
Magnifique. Je l'ai, Manu, ton match.
Vas-y,
Angleterre-Espagne.
Alors t'as raison parce que
3-2 c'est ça.
Ouais, 3-2 exactement. Voilà, bon, c'était en 2018.
Ah bah oui. Ouais, excuse-moi,
il y a
6 ans.
Oui, c'est ça. Il y a 10 ans, il y a à peine 6 ans.
6 ans, j'ai dit ouais.
Oui, oui. Récemment, il y a pas eu des matchs aussi.
Non. C'est le dernier match entre l'Espagne et l'Angleterre.
Ah bon, bah écoute,
c'est bravo.
Non, parce que moi, la dernière
Ligue des Nations, je voyais pas trop ce match-là. Mais d'accord. Oui, en 2018, oui, sûrement. Oui,
Mais bravo. Tu regardes les confrontations entre l'Espagne sur les dernières décennies, c'est un coup je gagne, un coup je perds, un coup je gagne, un coup je perds.
Mais c'est pas un classique, il n'y a pas souvent des matchs Angleterre-Espagne.
3-2, qui avait marqué, à votre avis?
Harry Kane?
Non.
Quoi, pour les Anglais?
Pour les deux.
Et Rodri avait marqué, je crois, dans ce match.
Pas du tout.
Non.
Il y a un doublé de Sterling, un but de Rashford pour les Anglais, but de Paco Alcácer. Ah, ça, tu l'avais.
Moi, j'avais déjà le score.
Et Sergio Ramos.
Ah oui, là, c'est extra. Ouais, Ramos, je m'en rappelle, ouais.
Voilà. Et Rodri n'était pas là. Il y avait Rodrigo qui jouait en attaque, mais il n'y avait pas Rodri au milieu de terrain. Et là, c'est le feu d'artifice, Jeannot.
Oui, ce sont les pots de fumée des couleurs des différents pays et surtout des deux finalistes, l'Espagne et l'Angleterre, avec le tifo interprété par tout le public et 70 000 spectateurs, avec ces fameuses couleurs qui entourent le trophée de Launay sur le logo officiel de l'Euro 2024. Et cette cérémonie de clôture qui est en train de s'achever dans quelques instants va apparaître le trophée lui-même, amené par Giorgio Chiellini, le capitaine de l'Italie, vainqueur de l'Euro en 2021.
Et les joueurs arrivent dans le tunnel avant de rentrer sur la pelouse.
Ils sont en train de se rassembler petit à petit, effectivement. On a Luis de la Fuente qui est là également, le coach qui vient, lui, juste de sortir. On a aperçu également Gareth Southgate, pardon, qui est en train de se préparer aussi à venir se positionner sur le banc des remplaçants, la zone technique des sélectionneurs.
Non, Jeannot, tu nous as dit tout à l'heure que le stade était rempli majoritairement par des Anglais et une partie par les Espagnols. Donc tu me confirmes, il n'y a pas de supporters allemands ce soir?
Si, il y aura des Allemands. Non, mais parce qu'en fait,
des... siffler Cucurella, tu veux dire?
Bah oui. Ah ben ça, tu le verras tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Oui, non. Tu as même des Français qu'on a croisés tout à l'heure. Tu as des gens qui ont acheté des places pour la finale, pensons que leur nation serait également présente aujourd'hui, avec bien évidemment le fait de se retrouver un petit peu éparpillé dans le stade.
Mais tu peux la revendre ta place quand même, non?
Oui.
C'est nominatif la place?
Tu peux, ou tu peux aussi aller voir une finale d'Euro, parce que quand même.
Bah oui, quand même.
C'est beau. Voilà.
Ouais.
Et donc, au cours, là, on verra s'il va se faire siffler. Il va pas se faire siffler à chaque fois qu'il va. Pour cette main non sifflée.
C'est même pas de sa faute.
Bah oui, c'est pas de sa faute. Siffler l'arbitre.
Bah bon. C'est depuis qu'il a dit coucou, Ella.
Oh, c'est excellent.
Il a été long, cet euro.
Il a du lourd.
Il a été long.
J'ai hâte. Pas de prolonge ce soir, les gars.
On risque d'avoir une soirée de clôture pas mal, nous, ce soir.
Mange une saucisse. Mange une saucisse à ma place, Jeannot.
Les allers-retours en Allemagne, ça a été long.
Ah, mais ça va me manquer d'ailleurs. Je vais passer des vacances en Bavière, là. J'ai en forêt noire, j'ai pris du camping. Avec un petit barbecue et tout.
Bah, t'as pris des contacts, là.
Voilà le trophée, messieurs. Le trophée qui est présenté au public.
Change de maison, tu sais.
Oui, vas-y, Jeannot.
Avec Giorgio Chiellini, le capitaine de la sélection italienne, qui a remporté à Wembley face à l'Angleterre cette finale 2021. Voilà, présenté au public,
sifflé,
positionné. Ouais, il s'est fait un petit peu sifflé, effectivement. Et là, il vient de placer le trophée juste entre les deux drapeaux espagnols et anglais. Et chacun des joueurs va passer à côté, de chaque côté du trophée, puisque les équipes sont en train d'entrer sur la pelouse.
Ah, oh, ça, Manu, quand même, ça te rappelle des souvenirs. Finale de grande compète.
Ça me rappelle les souvenirs et surtout la pression que tu peux avoir à ce moment précis, parce que tu te dis, en fait, ça fait 4-5 semaines que vous êtes ensemble et que des trophées comme ça n'arrive pas souvent et que tu risques de rester sur le quai de la gare et le train s'en va. Donc tu sais que c'est un one shot. Voilà.
Et dans ces cas-là, tu essaies quand même de dédramatiser dans ta tête. Tu te dis, ça reste quand même un match de foot, ça reste des trucs que je sais
compliqué,
faire.
Compliqué, parce qu'avec toute la pression, avec l'attente des supporters et puis l'impact que ça a aujourd'hui, le football, même si moi j'ai du mal à le comprendre des fois, mais les joueurs savent très très bien que gagner pour son équipe nationale, ça n'a rien à voir avec gagner avec ton club. Je dis toujours, tu peux gagner 10 Champions League, tu resteras jamais comme une légende dans le football, mais si tu gagnes quelque chose avec ton équipe nationale, tu vas au-delà justement des frontières du foot.
On se met en place pour les hymnes, Jeannot.
On est en train de se mettre en place, effectivement, pour les hymnes, avec dans quelques instants l'hymne de l'Angleterre. le God Save the King à l'instant, avec d'abord les fameux chapeaux de fumée, c'est sorti, et voici God Save the King. De l'Angleterre en présence du prince de Galles William, en tout cas il a été annoncé, et sous les yeux du roi d'Espagne Felipe VI, Marca Real, l'hymne espagnol dans le stade de Berlin.
Seconde. C'est le coup d'envoi de la finale de cet Euro 2024 Espagne-Angleterre en intégralité avec Jeannot Rességuier, Manu Petit et Fred Hermel. Restez avec nous, on revient très vite pour le coup d'envoi.
RMC, l'After Live, intégral Euro.